Ça roule radio avec Marc Bouchard.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Ça roule radio, votre émission hebdomadaire, en tout cas pas hebdomadaire parce que je suis un peu trop paresseux pour la faire à toutes les semaines, mais votre émission régulière, disons, qui porte sur le monde de l'automobile. Cette semaine, c'est une semaine chargée. Mon nom est Marc Bouchard. Vous me connaissez. Je vous invite d'ailleurs à me suivre directement sur Facebook, à Marc Bouchard tout simplement. Il y a aussi le Ça roule radio sur Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram à Bouchard_Marc. Bref, un peu partout et sur mon blog à marcbouchard.ca. Cette semaine, on fait donc une émission qui va traiter de différents véhicules, de deux véhicules entre autres, la Polestar 1, dont je vais vous reparler un peu plus tard, et la Kia Seltos 2021, un petit véhicule que j'avais très, très hâte d'essayer parce qu'on m'a posé beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur la Kia Seltos. Mais avant de faire ça, j'ai décidé qu'on passerait à l'actualité en partant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont déroulées au cours des derniers jours. Si vous êtes un amateur de véhicules, vous en connaissez déjà pas mal, probablement. Malgré tout, il y a des éléments qui sont intéressants de rappeler. Entre autres, la venue d'un Ram TRX. Écoutez, c'est la nouvelle probablement que tout le monde attendait. C'est pas vrai, là, c'est une joke, parce que écoutez, on crée littéralement un camion pick-up avec un moteur Hellcat de 702 chevaux dans ce cas-ci. Bien sûr, un moteur aussi qui va être jumelé avec toutes sortes d'éléments, incluant des suspensions particulières, suspensions qui ont été créées justement pour améliorer les capacités hors-route du véhicule. C'est pas, écoutez, on parle vraiment là, d'un modèle qui est absolument au-delà de toute commune mesure. Il est plus large que le Ram duquel il est inspiré. On parle de 203 mm à peu près. On tombe sur des roues évidemment plus grandes. On arrive avec des suspensions, je vous l'ai dit, de haute performance, des Bilstein qui sont dotées de 300 mm de débattement. C'est énorme. Ça va évidemment donner des choses qui vont permettre d'aller un peu partout. On a augmenté la garde au sol, on a modifié les angles d'approche, on a mis des pneus de 35 pouces, on a un différentiel arrière verrouillable, un Dana 60, on a un boîtier de transfert, évidemment, qui est amélioré aussi. Bref, tout ça entouré du célèbre moteur 6,2 litres EMI de 702 chevaux et de 650 livres-pieds de couple. C'est un véhicule qui va être incroyablement puissant. Boîte automatique 8 rapports de ZF comme il se doit. Écoutez, on nous dit que le véhicule va être capable de remorquer à peu près 7000 livres, 3500 kilos, peut-être un peu plus. On va être capable d'atteindre le quart de mille en 12,9 secondes. Je vous rappelle que c'est un camion pick-up, là. Et va faire le 0-100 en 4,5 secondes à peine. Plus, bien sûr, ajouter à ça des éléments de confort, des éléments de, entre autres, les systèmes multimédia, le grand écran comme on retrouve dans le Ram cette année. Bref, on joue la carte extrême avec le TRX. L'idée, en fait, et c'est clair, les gens de FCA l'ont dit au lancement, l'idée, c'est qu'on veut tout simplement aller abattre le Raptor chez Ford. On veut leur montrer que le camion de performance, c'est un Ram et c'est ce que l'on a fait. On a donc proposé ce véhicule-là qui va arriver d'ici la fin de l'année. Écoutez, c'est vraiment assez incroyable comme lancement parce que chez Chrysler, chez FCA, on est vraiment dans le monde de la performance et je pense qu'on vient de le faire, de le prouver encore une fois. Si on va du côté un peu plus raffiné, bien, on s'en va chez Acura. Acura qui a annoncé en fait tous les détails concernant le lancement de la Acura TLX qui va arriver au mois de septembre. Écoutez, je vais vous lire un extrait du communiqué de presse qui dit elle sera la berline la plus rapide, la plus maniable et la mieux équipée des 35 ans d'histoire de la marque. Donc, rien de moins. On vise, bien sûr, une clientèle qui va à la fois triper sur la performance et sur le look de l'Acura TLX, qui est, ma foi, plutôt joli, il faut le dire. Nouveau moteur, en fait, on a à l'intérieur un moteur turbo 2 litres de 272 chevaux, ce qui n'est pas vilain. Mais on arrive aussi avec une version type S qui lui propose un moteur V6 3 litres. Mais pour ça, il va falloir attendre au printemps. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner parce qu'on parle vraiment d'un moteur qui va être beaucoup plus puissant. Toutes sortes d'éléments, bien sûr, de design, de style qui vont avec la voiture. Je vous ai parlé de la Type S qui va avoir 355 chevaux, 354 livres-pieds de couple, mais ça, c'est strictement printemps. Les autres, ben, on s'en vient. Et pour la TLX 2021 qui arrive en septembre, il va falloir compter 43 990 $. C'est le prix de base. Mais bon, on arrive avec des interfaces modifiées, on arrive avec un nouveau système de son, on arrive avec des dimensions qui sont un peu plus grandes que la version actuelle de la TLX. Bref, c'est un véhicule qui est remanié complètement et qui va complètement changer de personnalité. On dit vraiment, là, c'est ce qui est surtout la caractéristique de cette nouvelle TLX, c'est, dit-on, sa nouvelle dynamique de conduite. Et ça, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, là. On verra ce que c'est comme véritable voiture quand on aura l'occasion de la conduire. Parmi les autres nouvelles, ben écoutez, il y a des disparitions qu'il faut souligner cette semaine. Je pense que c'est important. Bon, Hyundai nous avait annoncé qu'il abandonnait son accent parce que ben, ça, c'est pas, ça n'a pas pris personne vraiment par surprise parce qu'on s'attendait à ça étant donné que le venue est arrivé. Donc, on s'attendait à ce que les petits utilitaires prennent la place. Eh bien, écoutez, sans surprise de son côté, c'est Kia qui a annoncé qu'il abandonnait la Rio. Pour le moment, ils vont conserver cependant la Rio 5 portes, mais la Rio berline traditionnelle, elle va aussi disparaître du catalogue, ce qui est quand même assez particulier, mais c'est pour exactement les mêmes raisons, on s'y attend. D'ailleurs, on arrive avec le Seltos qui est un peu plus gros, on a toutes sortes d'éléments chez Kia qui vont permettre de faire ça, de remplacer ça, donc évidemment, il fallait s'y attendre. Mais il y a une autre disparition qui, elle, me fait plus de peine, je vous le dis, c'est le Nissan Titan. En effet, le Nissan Titan en est à sa dernière année, dans les derniers milles, parce que Nissan a décidé de se retirer de ce marché-là, de marché des grandes camionnettes, parce que, dit-on, les ventes n'étaient pas au rendez-vous, ce qui est bien dommage. Écoutez, je n'irai pas jusqu'à vous dire que le Nissan Titan était un grand camion, c'était un bon camion, c'est un camion qui se défendait très bien dans tout ce qu'il avait à faire, mais malheureusement, je pense que la question des camionnettes grand format, c'est réservé aux véhicules nord-américains, les Ram, les Ford de ce monde, les Silverado, qui sont définitivement les grands gagnants dans ce monde-là. Et je pense que malheureusement, là, la Nissan Titan est victime de cet élément-là. Donc, je pense que c'est un peu triste, mais malgré tout, pour Nissan, c'est peut-être une bonne décision de se retirer de cet élément-là. Je pense donc que c'est une bonne chose. Les amateurs de Ford vont être heureux d'apprendre que de ce côté-là aussi, il y a des développements cette semaine. En fait, il y a toutes sortes de rumeurs à gauche et à droite pour différents produits Ford. Entre autres, on nous apprend que la nouvelle Mustang devrait arriver en 2022. Ce qui est quand même assez loin, là. Ça va faire 8 ans que la Mustang va être là, ou presque 8 ans, parce qu'elle est arrivée en 2015, comme année modèle 2015 de mémoire. Donc, ça va quand même paraître beaucoup au niveau de l'âge de la voiture, mais on dit qu'elle sera complètement remodelée pour 2022, lancée en 2021. Il faudra donc attendre ce qui se passe. Du côté du Ranger, on nous dit qu'il y aura aussi une version Tremor. La version Tremor, on le sait, elle est actuellement disponible du côté du F-250. Que je vais d'ailleurs conduire la semaine prochaine, si je me souviens bien. Et c'est donc une version qui est un peu plus extrême, un peu plus hors-route, qui est destinée à aller en haut du FX4. Donc, on verra ce que ça va donner du niveau du Ranger, mais on nous promet ce détail-là. Et le dernier détail, et ça, je trouve ça intéressant, c'est que Ford serait en train d'essayer de s'inspirer, disons, si on veut être poli, de ce que GM a fait avec le Sierra et maintenant sur le Silverado. et vont créer, semble-t-il, un haillon multifonction capable de se diviser dans différentes catégories, bon, de haut en bas, en largeur, au milieu, bref, devrait être capable de changer ce haillon-là, ce qui est une excellente nouvelle, hein, parce qu'on le sait, les haillons sont souvent très lourds, ne sont pas nécessairement pratiques, donc ça devrait nous permettre d'avoir accès à quelque chose d'intéressant au niveau du haillon du Ford F-150, mais encore une fois, ne retenez pas votre souffle, on n'est pas rendu là pour le moment. Évidemment, on ne peut pas parler d'automobile sans parler du Bronco, on le sait, c'est pour le moment la vedette de l'été. Au cours des derniers jours, il y a eu une présentation du Bronco Sport à Oakville, en Ontario, présentation à laquelle je n'ai pas assisté là, parce que c'était un petit peu compliqué pour moi de faire l'aller-retour. Il y avait une brève présentation qui durait à peu près une heure et demie. Mais bon, on a évidemment accès à toutes les informations et le Bronco Sport risque d'être un modèle fort intéressant. D'abord parce qu'il est plus petit en dimension, bien entendu. Il est bâti sur la même structure que le Ford Escape, donc vient combler un vide un peu pour les amateurs de véhicules un peu plus, un peu plus extrêmes, un peu plus aventuriers, mais qui n'ont pas nécessairement envie d'aller vers le gros Bronco qui va arriver plus tard. Il faut rappeler que le Bronco Sport arrive, lui, avant son grand frère Bronco, donc c'est une bonne nouvelle. Partage aussi avec l'Escape, non seulement l'infrastructure, mais partage aussi la motorisation, c'est-à-dire un moteur 1,5 litres et un 2 litres 4 cylindres qui font quelque part entre 181 et 250 chevaux selon ce que l'on veut. Évidemment, tous les modèles Bronco ont accès, sont offerts avec le rouage intégral. Il y a deux types de rouages intégraux différents qui sont offerts selon le type d'usage que vous voulez en faire. Bien sûr, tout ça, ça dépend si vous êtes un grand amateur de hors-route ou si vous êtes quelqu'un qui mise davantage sur la sécurité. Dans certaines déclinaisons, on offre aussi le fameux système GOAT, Goes Over Any Type of Terrain, qui est le fameux système qui permet de choisir entre différents modes de conduite, incluant éco, normal, sport, glissant et le sable. On peut même ajouter des éléments comme la boue et le rock crawling, l'ascension sur les rochers. Bien sûr, ça s'ajoute à tout ce qui vient avec à l'intérieur du Bronco Sport. C'est un petit véhicule donc qui, oui, ressemble à s'y méprendre, si l'on veut, à son grand frère, le Bronco, offre des solutions de rangement qui sont aussi fort intéressantes. Honnêtement, c'est un petit véhicule qui risque d'être bien le fun, que j'ai bien hâte de conduire parce qu'il semble aussi joli que le grand frère à l'intérieur. Je vous le dis, moi, je ne l'ai pas vu, j'étais malheureusement pas là. Malgré tout, je pense que ça risque d'être agréable à conduire, sauf que si vous le voulez, moi, je vous dirais, dépêchez-vous. Déjà, le Bronco a connu un succès incroyable et retentissant. Je pense que le fameux Bronco Sport va connaître le même genre de succès et il faut le réserver rapidement. Donc, je vous invite à le faire pour le Bronco Sport. Dans la série des rumeurs qui continue, je trouve ça très amusant de voir que chez Corvette, on s'amuse à... Bon, on dit qu'on a arrêté les ventes parce qu'ils ont un problème avec le capot, ce qui est possible. Il y a eu quand même 175 000 Corvettes qui ont été faites. La particularité, c'est que là, on dit que Corvette vient de réserver un nom, vient d'enregistrer un nom officiellement qui s'appelle la E-Ray. Et non pas la Stingray comme c'est traditionnel. Ça veut donc dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une Corvette à motorisation électrique d'une quelconque manière. On n'a pas évidemment de détails. C'est qui serait faite par GM parce qu'on sait qu'il y a plusieurs compagnies qui en ont fait là, des versions électriques. Pour le moment, évidemment, il n'y a rien qui a été fait. On aura possiblement une Corvette hybride aussi. Bref, il y a toutes sortes de rumeurs à l'égard de la Corvette. Bien hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, mais pour le moment, on n'est pas rendu là encore. Enfin, dernier détail, on en a parlé précédemment, mais on en parle encore, le Nissan Rogue qui a été renouvelé. C'est un véhicule extrêmement important parce que pour Nissan Canada, c'est le véhicule le plus vendu. C'est le premier véhicule qui s'était classé dans le top 10 des véhicules les plus vendus au pays, toutes catégories confondues. Donc, c'est un véhicule qui va être extrêmement important. La nouvelle déclinaison, elle est vraiment plus jolie. Moi, j'aime mieux, en tout cas, le style qu'on lui a imposé. Et là, ben, Nissan nous a offert les prix qui vont, je vous dirais, entre 28 498, qui est la version de base à traction. Et là, évidemment, si vous voulez opter pour l'intégrale, on rajoute 2 300. Il y a des versions SV, bien entendu, et la version Premium, là, qui est le Platinum plutôt, là, qui est le haut de gamme. Le haut de gamme est à 39 998, bien entendu, avec la totalité des équipements. Tous les Rogue sont équipés du même moteur, un 4 cylindres 2.5 litres, système d'injection directe, bien sûr, 181 chevaux, 181 livres-pieds de couple, ce qui est une augmentation par rapport à ce qui était offert dans le passé, là, de quelques chevaux à peine. Évidemment, il faudra attendre de voir si dans la vraie vie, ça fait une réelle différence. Mais ce Rogue, donc, qui va être là bientôt, qui est offert à ce prix, je pense que ça ne devrait pas nuire. Là, il n'y a pas de changement majeur à la carte des prix, donc c'est quand même intéressant. On va maintenant passer aux essais de la semaine, parce qu'il y a vraiment des essais assez particuliers. Le premier, c'est le fameux Kia Seltos. Kia Seltos 2001, que honnêtement, 2021, excusez-moi, c'est vraiment un véhicule que j'avais très hâte d'essayer parce que c'est un véhicule qui a de la gueule, auquel j'avais assisté au lancement, au dévoilement dans un salon de l'auto, et je trouvais que ce véhicule-là avait un certain avenir parce qu'on lui propose vraiment une vision différente, c'est-à-dire qu'il a l'air plus d'un vrai VUS que le Hyundai Kona, par exemple, qui est, son pendant direct et non pas le Venue chez Hyundai, le Venue étant plus petit. Donc, le Kia Seltos affiche quand même quelque chose d'un peu plus agressif, je vous dirais, au niveau de l'apparence. Oui, on a la grille avant qui est traditionnelle à Kia, on a les blocs optiques avant qui sont vraiment tout à fait différents. Moi, je les trouve très jolis. Évidemment, il faut aimer le genre. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un élément vraiment utilitaire sport, là, avec des recouvrements d'arches de roue, avec, bon, dans certains cas, des rails de toit, vraiment une partie arrière qui est beaucoup plus carrée, surélevée, ce qui donne donc l'allure d'un véritable utilitaire sport, bien qu'on s'entend, on est quand même dans le petit format. Intéressant aussi de constater l'espace intérieur parce que on est vraiment dans un autre monde que le Kona. Là. Écoutez, juste avec les sièges arrière en place, là, on dit qu'il y a 752 litres. C'est 200 de plus que le Kona. C'est vraiment... ce que ça fait, en fait, c'est que ça nous permet d'utiliser la hauteur maximum du camion et donc d'aller loger pas mal de stock. Honnêtement, ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant. C'est le cas aussi dans la deuxième rangée. Il y a plus d'espace dans la deuxième rangée. Et ça, bien évidemment, si vous avez des passagers, des enfants, c'est quand même un élément intéressant. La partie avant, bien écoutez, on est vraiment dans le même monde que le Kona, que la plupart des rivaux de cette nature-là. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant au niveau du petit véhicule. Si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, dans l'habitacle, on a un habitacle qui est bien fait, qui est bien fini. Évidemment, moi, j'avais la version la plus élevée. On va y revenir tantôt parce que la motorisation est différente. Mais c'est vraiment un véhicule que moi, j'aime beaucoup en termes d'intérieur, mais c'est identique à tout ce qu'on retrouve chez Kia. Donc, commandes redondantes au volant qui sont faciles, écran central, bien entendu, avec le système UVO qui est très ergonomique, qui est facile à utiliser, qui se comporte très bien. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. C'est assez agréable. Rouage intégral qui était de série sur mon véhicule. Par contre, bien sûr, il est offert en version traction quand on offre pour les options de base. Et là, on parle de base. Écoutez, de base, le 4 cylindres arrive avec un moteur 2 litres de 146 chevaux, 132 livres-pieds de couple et une CVT. Disponible en modèle traction ou 4 roues motrices, bien sûr. C'est le même moteur qu'il y a dans le Kona, qui est correct, mais qui est un peu bruyant, en fait, quand on accélère. Moi, j'avais la version SX Turbo, un petit bloc, 1,6 litres, 175 chevaux, 195 livres-pieds de couple. Ce qui est l'avantage, notamment, outre la puissance supplémentaire, c'est la transmission. Double embrayage, 7 rapports, elle est beaucoup plus rapide, l'autre c'est une CVT. Donc, on sent vraiment qu'il y a une différence, particulièrement quand on va sélectionner le mode sport de conduite, où là, vraiment, on sent qu'il est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agréable en conduite. Alors ça, c'est écoutez, on s'entend, c'est pas un véhicule sportif, mais c'est quand même un véhicule qui se démène assez bien sur la route. Et ça, là, on sent vraiment là, qu'il est plus, avec surtout le mode sport, il y a une différence. Le bémol, ben, c'est probablement le bruit dans l'habitacle qui m'a dérangé. C'est ce qui, moi, m'a agressé le plus, je vous dirais. Mais c'est quand même un bien petit détail à cet effet-là. Donc, le Kia Seltos, à mon sens, est une belle réussite dans son monde. Un petit véhicule dont le prix de base est d'à peu près 25 000 $ là. Je n'ai pas le prix précis. Ben, 24 905, dit-on, incluant frais de transport et préparation pour le moteur 2 litres traction seulement. Évidemment, si vous voulez ajouter les autres choses, là, on parle de on ajoute quelques dollars, vous aurez compris, surtout si on ajoute la traction intégrale. Mais si on va dans le haut de gamme, la SX Turbo que moi j'ai essayé, elle était quand même 35 000 $ 34 500, incluant transport et préparation. Mais là, honnêtement, on était dans un autre monde. Alors, moi, c'est un véhicule qui, honnêtement, devrait être en mesure de rivaliser de façon très féroce dans un créneau déjà hautement compétitif. Bien sûr, le premier rival qui me vient en tête, c'est le Mazda CX-30, qui est plus luxueux, hein, qui a vraiment une approche vraiment plus luxueuse, le CX-30, et une conduite qui est peut-être un peu plus douce. Mais si vous êtes à la recherche de quelque chose d'un peu différent en termes de conduite, bien là, je vous invite à regarder le Kia Seltos 2021, qui, lui, est vraiment un modèle qui devrait vous inspirer un peu plus confiance. Et là, c'est le moment de vous parler de mon essai chouchou de la semaine. Un essai assez particulier parce qu'il concerne un véhicule que vous n'avez probablement jamais vu. Un véhicule qui s'appelle le Polestar 1. Là, on va expliquer tout de suite ce qu'est le Polestar 1. Le Polestar 1, ben, ce qu'est Polestar. Polestar, c'est une compagnie qui a été créé par Volvo et par Geely. Geely, qui est la compagnie chinoise qui s'est portée acquéreur de Volvo, ils ont décidé de se jumeler ensemble et de créer une troisième compagnie qui porte le nom Polestar, dont la mission est de créer des véhicules électrifiés de différentes catégories. Et quand je parle de véhicules électrifiés, ça peut être des véhicules hybrides, comme dans le cas de la Polestar 1, qui est un hybride branchable, et les prochains véhicules, Polestar 2, Polestar 3, qui seront des véhicules 100% électriques. Bon. Une fois ces choses de la dite, si vous me demandez pourquoi ils ont fait ça, ma réponse, ce sera « je n'en ai pas la moindre idée ». En fait, moi, j'aurais cru que l'on aurait conservé chez Volvo l'électrification. On sait qu'il existe déjà des modèles hybrides. On sait qu'on veut déjà arriver avec le XC40 Recharge, qui est un petit VUS 100% électrique. Donc, on aurait pu ajouter et intégrer à la gamme Volvo différents véhicules qui offrent ce même genre de confort et de haut de gamme-là. Mais on a choisi de créer une autre division qui porte le même nom, Polestar, que la division de performance. Donc, la division qui se charge de rendre les véhicules Volvo un peu plus performants, qui s'appelle maintenant Polestar Engineering. Bref, on est un peu dans le compliqué, mais on finit par y arriver et on va finir par se comprendre. Une fois ça dit, je dois vous parler de la Polestar 1, qui est un véhicule exceptionnel. Véhicule exceptionnel parce que c'est un véhicule qui d'abord bénéficie d'une fabrication manuelle ou presque, parce que c'est un véhicule dont la structure est faite en fibre de carbone. Or, la fibre de carbone, évidemment, on ne presse pas ça comme on le fait avec du métal. Il faut la mouler et la mouler de façon avec un procédé qui exige la présence d'ouvriers. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui se fait à la main et qui permet d'alléger, mais de rendre solide et rigide le châssis de la voiture. Bon, évidemment, les mauvaises langues vont vous dire que oui, on a rendu la voiture légère, mais on a mis un toit panoramique en verre qui, lui, est beaucoup plus lourd. Donc, ça vient contrer un peu tout ça. C'est vrai, c'est pas faux, mais en même temps, pour le look, je vous dirais que le toit panoramique, moi, je l'ai beaucoup apprécié, que ce soit au soleil ou à la pluie. Vraiment, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui crée une atmosphère à l'intérieur de l'habitacle. Quand on regarde la Polestar 1, elle est absolument magnifique. C'est vraiment inspiré d'un coupé Volvo, pas très loin de la P1800 que l'on connaissait à l'époque, mais beaucoup plus large. Elle a des dimensions imposantes. Elle a une silhouette qui est raffinée. Elle a une grille qui est vraiment particulière, mais on retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont tout proches de ce que Volvo nous propose. Entre autres, les fameux blocs optiques en marteau de Thor, là, les fameux T couchés sur le côté. C'est ça qu'on retrouve en avant de la Polestar. Donc, on ne se distingue pas nécessairement beaucoup du point de vue physique quant à ça. Même chose, quand on regarde la partie arrière, cependant, elle est assez spectaculaire. Elle est vraiment très belle, elle est très affirmée, très musclée. On roule sur des roues 21 pouces, évidemment, des codes de vitesse ZR 230, avec un très, très bas profil, à peine 30. Donc, vraiment, ça donne une silhouette qui est assez affirmée aussi quand on la regarde de côté. Bref, c'est une très, très belle voiture. Quand on saute à l'intérieur, ben là, on se retrouve en terrain connu. Si vous avez déjà mis les pieds dans un Volvo, on est littéralement dans une S90. On a repris le même élément, le grand écran au centre, avec le même type de système multimédia. On a l'espèce de levier de transmission en cristal qui est à peu près identique à ce qui se fait chez Volvo. Bref, on n'est vraiment pas là, dans l'exotisme du tout à l'intérieur. C'est beau, c'est bien fait. Beaucoup de fibres de carbone, des sièges extrêmement confortables, mais ça aussi, c'est une caractéristique chez Volvo. Bref, on n'est pas très loin de ce que l'on a envie de présenter chez Volvo. Bon, évidemment, c'est un 2 plus 2, mais moi, je vous dirais que c'est un 2 plus une demi, là, parce qu'en arrière, les sièges sont à peu près impraticables pour quelqu'un qui a un format à peu près normal. Mais Polestar, c'est correct, c'est pas l'idée. On veut vraiment utiliser la Polestar 1 comme une vitrine technologique. L'idée, c'est qu'on veut faire la démonstration de ce que l'on est capable de produire, de ce que l'on est capable de faire. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est extrêmement bien réussi. Bien réussi au niveau de la qualité d'assemblage, bien réussi au niveau de la voiture elle-même, et bien réussi au niveau technologique. Parce que ce qui distingue cette auto-là, c'est que c'est une hybride branchable extrêmement puissante, dotée de 3 moteurs électriques. Il y en a un à l'avant, sous le capot, qui est jumelé directement au moteur de 2 litres à essence, turbo et surcompressé. Tout ça mis ensemble, ça s'ajoute à 2 moteurs électriques qui sont logés à l'arrière aussi. La totalité nous procure 619 chevaux et 738 livres-pieds de couple. Inutile de vous dire que ça fait une bête féroce quand elle est en accélération et que l'on choisit le mode en conséquence. Parce qu'il y a plusieurs modes de conduite disponibles. Des modes qui sont tout électriques, vous aurez compris qu'à ce moment-là, c'est une propulsion. Des modes à essence où, à ce moment-là, la voiture est une traction. Et on peut la mettre en mode hybride ou en mode traction intégrale. Et là, tous les moteurs fonctionnent de concert. C'est donc, en fait, on peut choisir littéralement quel est le type de traction qui va propulser notre voiture au moment où on en a besoin. Ça fait un 0-100 en un petit peu plus que 4 secondes. Je peux vous dire que ça coupe le souffle pour une voiture de cette taille-là. C'est assez phénoménal, c'est assez spectaculaire. La conduite, elle est intéressante, elle est assez dynamique grâce, entre autres, aux suspensions Ohlins que l'on peut régler manuellement. Là, c'est des Ohlins avec réglage sous le capot dont on peut décider du débattement. Ça permet donc une conduite qui est définitivement plus affirmée. Bien sûr, c'est quand même une voiture qui est assez lourde. C'est pas une voiture de course, c'est une voiture GT, une grande touring, qui nous offre confort et performance. Dans le fond, c'est ça l'idée, plus une consommation vraiment ridiculement basse. Pourquoi? Bien, parce qu'on a des batteries, bien sûr. Batteries dans le plancher, batteries aussi dans le dossier des sièges arrière. 34 kWh de batterie au total. Ça nous permet d'avoir jusqu'à 115 km d'autonomie en mode 100% électrique. Je vous dirais même que j'ai réussi à faire un petit peu plus avec, sans pour autant ménager rien au niveau des accélérations. Et malgré tout, au terme de ma semaine d'essai, j'ai maintenu une moyenne de 6 litres au 100 à peu près. Donc, c'est quand même un véhicule qui est, de ce point de vue-là, assez économique, malgré la puissance. Le compromis, bien écoutez, je vous l'ai dit, pas d'espace dans la voiture et encore moins d'espace dans la valise arrière, là où on est limité par les connecteurs, par les batteries. Écoutez, on se retrouve avec une valise qui est à peine le format de celle d'une Mazda MX-5 pour un véhicule qui, autrement, a de grandes, grandes dimensions. Donc, c'est un très beau véhicule, c'est un véhicule d'exception, c'est un véhicule spectaculaire. C'est surtout, je vous l'ai dit, une vitrine technologique pour Polestar. Il y en aura, dit-on, 12 cette année au Canada. Au total, 1500 dans le monde au fil des 3 premières années d'existence. C'est un premier coup publicitaire, si l'on veut, pour Polestar. mais publicitaire à un prix, 199 000 $ c'est le prix de la voiture pour le moment. Évidemment, c'est assez dispendieux, vous aurez compris. C'est pour ça qu'on en a limité le nombre, je pense. On ne s'attend pas à en vendre des tonnes. Quand même, des éléments qui sont intéressants avec cette voiture-là, c'est très agréable. Évidemment, nous, on conduisait la voiture démo, la voiture de presse. On dit que c'est la seule voiture de presse en Amérique. Il y avait des petits autocollants sur le côté qui précisaient que la voiture était faite en fibre de carbone. C'était des petits autocollants qui, bon, ne faisaient pas très raffiné. Et j'ai un collègue, Frédéric Mercier, qui m'a demandé de vous dire que lui trouvait ça très laid, les autocollants. Et je pense que, bon, pour rendre hommage à Fred, c'est vrai, c'était pas très joli, mais évidemment, vous aurez compris que ça ne fait pas partie de ce qui est naturellement là. En revanche, je dois vous parler aussi de Fred. Si vous ne connaissez pas Frédéric Mercier, il travaille pour le Guide de l'auto. Je vous invite à l'écouter. Il y a un podcast sur Cube Radio. Il fait aussi des vidéos. Bon, écoutez, au niveau de l'écriture, c'est un bon journaliste, évidemment, là, mais c'est un peu plus standard. Par contre, quand il parle, c'est un vrai passionné. Il doit aussi connaître la mécanique, pas juste l'auto, parce qu'il est propriétaire d'un Westphalia et d'une vieille Porsche. C'est un gars que ça vaut la peine de découvrir. C'est un gars super sympathique que moi, j'avais failli embaucher dans une autre vie et que malheureusement, les conditions n'ont pas permis qu'on travaille ensemble. Mais c'est un gars que j'aime beaucoup et qui a des remarques toujours assez pertinentes et qui est un véritable passionné. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et à écouter son podcast. C'est vraiment Frédéric Mercier. Je pense que c'est Fredanova sur Instagram. Et suivez-le sur le Guide de l'auto, bien sûr. C'est un très bon journaliste automobile, un jeune qui vraiment a des bonnes connaissances et surtout qui est un vrai, vrai passionné, même s'il ne connaît pas trop les autocollants, ces autos-là. On ne peut pas tout connaître dans la vie. Alors voilà qui met fin à cette édition de Ça roule radio pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger cette émission et toutes les autres sur Spotify, sur toutes les plateformes de Google, de Apple, bien entendu. Sur Balado Québec, on est aussi sur sportradio.ca et on est bien sûr sur saroule-radio.com. Vous pouvez vous retrouver sur ma page Facebook Marc Bouchard, sur la page Facebook de Ça roule radio et vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter à Marc souligné Bouchard ou sur Instagram à Bouchard souligné Marc. Vous y verrez souvent des photos des voitures que j'essaie et des photos de mes chiens que, je vous signale, vous n'avez pas entendu aujourd'hui, à ma grande surprise, parce qu'ils sont couchés à mes pieds tout au long de l'émission. Alors voilà qui met fin à cette émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.